Au sommaire de ce journal, le devenir de la famille syrienne débarquée à Porto Vecchio avant-hier. Nous serons avec la LDH dans un instant. La LDH inquiète de la situation de ces réfugiés. Le masque à l'école, c'est reparti dès lundi en Haute-Corse. La demande de libération de Tommy Recco refusée pour la 21e fois. Et puis une vente aux enchères particulière aujourd'hui à Drouot, à Paris. On parlera également du bien-être animal, notamment avec l'invité de la rédaction, la présidente de Global Earth Keeper, qui organise une grande journée demain à Porto Vecchio. Et puis en sport, il y a du changement au FCBB. Rendez-vous à la fin de ce journal. Mais on débute tout de suite avec la suite de la visite de la ministre chargée de l'insertion, Brigitte Klinkert, qui était ce matin à Corté. Elle a d'abord rencontré le maire, Xavier Paul. Ils ont bien entendu échangé sur la thématique de l'emploi, de l'insertion, qui est encore plus prégnante dans la ville de Corté, avec l'université qui forme plus de 5000 jeunes tous les ans. La ministre est ensuite passée à l'association Cap Solidaire, toujours à Corté, association qui œuvre donc évidemment pour l'insertion professionnelle. Brigitte Klinkert s'est à présent arrêtée à Francarde pour visiter la recyclerie de Corse Mobilité Solidaire, qui permet à des personnes sans emploi de se réinsérer, de renouer avec le monde du travail. Jean-Baptiste Lec, vous suivez pour nous cette visite.
Oui Alexandre, la ministre vient à peine d'arriver ici à Francarde, dans la petite commune du centre Corse, qui n'est pas habituée, il faut le dire, à avoir autant de monde. Elle est actuellement en train de discuter avec les membres de l'association. On le rappelle, Corse Mobilité Solidaire permet à des personnes sans emploi, traversant une période compliquée, de se réinsérer dans le monde de l'emploi, c'est, dirons-nous, un tremplin. Alors, depuis ce matin, c'est une ministre souriante qui ne cesse de rappeler l'affection qu'elle a pour l'île. Brigitte Klinkert explique qu'elle a conscience des soucis concernant l'emploi ici en Corse, de son taux de pauvreté qui est le plus important de France. Elle se montre d'ailleurs à l'écoute des associations qu'elle rencontre, des gens qui y travaillent. Elle le prouve, la ministre n'arrive pas, les mains vides cette fois-ci. Une enveloppe de 120 000 euros a été promise à l'association Cap Solidaire ce matin. Une enveloppe qui va permettre la création de 25 emplois. Plus largement, pour l'île, on le rappelle, c'est un budget de 2 millions d'euros qui est dédié à la Corse dans le cadre du plan Relance Inclusion.
Jean-Baptiste Lec en direct de Francarde, donc pour la visite ministérielle de Brigitte Klinkert. Merci Jean-Baptiste.
RCFM, toute l'info.
Le skipper allemand, un temps placé en garde à vue après l'arrivée d'une famille syrienne à Porto Vecchio, a été libéré sans être poursuivi hier soir. Le parquet qui avait ouvert une enquête pour aide au séjour irrégulier précise qu'il s'agit bien d'une démarche humanitaire et non la naissance d'une filière d'immigration clandestine. Les migrants syriens, eux, sans papier d'identité ni documents sanitaires, ont été placés à l'isolement dans un hôtel de Porto Vecchio. Pour parler de leur situation, nous sommes avec Elsa Renaud de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Elsa Renaud.
Bonjour.
Est-ce que on sait si ces migrants, leurs droits sont respectés, s'ils ont pu par exemple avoir accès à un avocat?
La Ligue des droits de l'homme, depuis l'arrivée de ces personnes exilées de Syrie, s'est préoccupée de leur situation, s'est inquiétée de leur situation. D'abord, elles ont été secourues en urgence. Il faut rappeler qu'il y a des enfants en bas âge et une femme enceinte parmi ces personnes. Et dès le départ, nous avons dit que les secours d'urgence ne suffiront pas compte tenu de leur situation, puisque ces personnes doivent accéder à une information sur leur situation et leurs droits, doivent accéder à des conseils, soit par un avocat, soit par une association. Et ces conseils doivent être relatifs, bien sûr, au droit d'asile. Dans un second temps, ce qui nous préoccupe et nous inquiète, c'est la situation de privation de liberté dans laquelle ces personnes semblent placées. Cette situation interroge. Sont logées dans un hôtel et semblent isolées, coupées des contacts et des solidarités qui pourtant voudraient s'exprimer. Des élus n'ont pu les rencontrer. Alors, s'ils sont placés dans cette situation de rétention administrative, s'ils sont placés en zone d'attente, eh bien, c'est une situation qui devrait être encadrée par un arrêté. Et cet arrêté devrait être assorti du droit d'accès à un avocat. On sait que cet avocat devrait être désigné par le bâtonnier et au dire de Maître Tibéri, la bâtonnière, il n'y a pas eu d'action en ce sens. Donc on est en droit de s'interroger sur la situation de ces personnes. On le rappelle qui vivent une situation de traumatisme. Hein. On imagine leur périple depuis la Syrie, on imagine ce qu'ils ont fui et leur droit, c'est le droit d'asile.
Ils sont peut-être même pas au courant des possibilités qui s'offrent à eux.
Ils devraient pouvoir déjà prétendre au statut de réfugié, en être informé. C'est un droit qui est défini en droit international par la Convention de Genève et qui oblige les États à apporter leur protection aux personnes qui ont fui leur pays en raison de situations qui mettent leur vie en danger. Et ce droit d'asile a aussi une valeur constitutionnelle.
Donc en tout cas, il faut vraiment clarifier au plus vite la situation de cette famille.
Exactement, sachant que la question humaine est première, c'est que quand ces personnes arrivent, le premier geste, c'est le geste d'humanité, d'apporter protection, et cette protection est encadrée par le droit d'asile.
Elsa Renaud de la Ligue des droits de l'homme, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur RCFM.
Merci.
RCFM, 12h-12h30, l'info.
12h et presque 6 minutes sur RCFM. C'est reparti pour le port du masque à l'école en Haute-Corse. Face à une reprise épidémique dans le département, le gouvernement remet cette mesure en place à la rentrée, dès la rentrée des vacances de la Toussaint, ce lundi, pour les élèves du CP au CM2, obligation qui avait été levée début octobre. Les instituteurs vont donc devoir assurer le bon respect de cette mesure dans leur classe. Fabien Minéo, secrétaire départemental du SNUIPPFSU, comprend le choix du gouvernement, mais il aurait bien sûr préféré qu'il n'ait pas besoin de prendre cette décision.
C'est regrettable parce que les enfants ont du mal à respirer avec. Nous-mêmes, on a énormément de mal à faire passer les notions. Pour ce qui est de l'apprentissage capital de la lecture au CP, c'est très difficile de travailler avec ces masques. On espérait reculer et enfin retrouver une vie normale après des mois et des mois d'attente. Tel n'est pas le cas et c'est dur à encaisser pour les enfants et dur à encaisser pour les enseignants. Comment on envisage les choses? C'est justement de se plier, malheureusement, pour eux et pour nous, à cette nouvelle mesure, en espérant qu'enfin, et on attend ça depuis des mois, que cette foutue maladie, sinon disparaisse, mais au moins soit à des seuils tels qu'on puisse reprendre petit à petit une vie normale, parce que là, ça fait bientôt 2 ans et c'est très très long.
Interview signé Margot Turgy. Un mouvement national de grève des infirmiers anesthésistes, il a débuté hier. Mouvement suivi à 100% par exemple à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Ces infirmiers anesthésistes protestent contre le mépris dont leur profession fait l'objet aujourd'hui. Master 2, Bac plus 5, avec une autonomie d'action au quotidien et des compétences qui ne sont donc pas reconnues concrètement dans leur statut et leur salaire. Les infirmiers ont par ailleurs travaillé en amont avec la communauté médicale à Ajaccio pour impacter le moins possible les opérations urgentes, notamment en cancérologie. Mais la direction de l'établissement ne souhaite pas faire droit à ces requêtes. Les syndicats, eux, demandent à présent à la direction de respecter les formes pour assigner les personnels avec courrier recommandé, etc. Bref, c'est un véritable bras de fer qui vient de s'engager entre les personnels grévistes et la direction de l'hôpital. En justice, demande de libération refusée pour Tommy Reco, âgé de 87 ans, le plus vieux détenu de France, qui purge sa peine à la prison de Borgo, avait une nouvelle fois, la 21e fois, fait valoir des raisons médicales pour demander une libération conditionnelle. Et il est incarcéré depuis 1980 pour 2 triples meurtres commis entre novembre 1979 et janvier 1980. 3 caissières d'un supermarché de Béziers à l'occasion d'un braquage. Dès quelques semaines plus tard, une fillette de 11 ans, son père, un voisin dans le département du Var. Jean-Sébastien de Casalt, l'avocat de Tommy Reco, ne se dit pas surpris par cette nouvelle décision, mais il s'interroge sur ce que doit être la justice.
Tommy Reco était fondé à revendiquer le droit de ne pas mourir en détention, parce que la vraie question, elle est là. Est-ce que être condamné à perpétuité, c'est refuser toute possibilité à un condamné à recouvrer la liberté dans le cadre d'une surveillance judiciaire extrêmement encadrée? Et dire cela, ce n'est pas nier l'extrême gravité des faits pour lesquels Tommy Reco a été condamné, ni dénier d'ailleurs la souffrance toujours vive des familles des victimes. Tommy Reco étant considéré comme ayant un état de santé qui restait compatible avec la détention, nous allons faire appel, fait qu'il ait purgé plus de 56 ans de détention, qui souffre de plusieurs handicaps, légitime selon nous une décision de remise en liberté dans un cadre qui pourrait être particulièrement exigeant, avec une surveillance judiciaire particulièrement encadré.
Un nouveau rejet de libération qui, comme à chaque fois, soulage les familles des victimes. Écoutez Maître Linda Piper, l'avocat de Guy Morel.
C'est un soulagement surtout, c'est un soulagement pour les parties civiles, pour Monsieur Morel, qui évidemment mène le combat de sa vie, qui est celui que Monsieur Reco fasse évidemment sa peine jusqu'au bout. Il a été condamné à perpétuité et il souhaite que cette perpétuité soit réelle. Malgré son âge, mais vous savez, il a 87 ans, mais il est en forme physique. En tout cas, les médecins n'ont pas relevé d'incompatibilité entre son état de santé et son placement, son maintien en détention. Les parties civiles auront, me semble-t-il, hein, toujours évidemment la même position. Les parties civiles, en fait, souffrent à chaque fois qu'il y a une demande, voient leurs blessures, leurs peines réouvertes, ont toujours la même, le même positionnement qui est celui, évidemment, du maintien de monsieur Réco en détention.
Maître Linda Pipari, donc l'avocate de Guy Morel, veuve de l'une des trois caissières abattues dans un supermarché de Béziers en décembre 79. Justice, toujours avec une vente aux enchères un peu particulière aujourd'hui à Paris. 300 biens de luxe saisis par la justice vont être revendus à des particuliers à l'occasion de ces 10 ans. La GRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a rassemblé pour cette vente des biens particulièrement prestigieux. Margot Steve.
Prix de départ 1,5 million d'euros pour ces 300 lots, tous plus luxueux les uns que les autres, des grands crus, des bijoux, des montres et même des lingots d'or. Une quinzaine de voitures de luxe aussi, dont ce bolide confisqué à un conducteur ivre et sans permis. De l'argent qui va finir après les enchères dans les caisses de l'État, explique Nicolas Besson, le directeur général de la GRASC.
Ces signes extérieurs de richesse sont vendus et vont permettre, dans une logique vertueuse, d'abonder le budget général de l'État et également, tout aussi important, d'indemniser un certain nombre de victimes.
Et la démarche est d'autant plus efficace qu'elle sanctionne les criminels là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie.
Ce que je constate très régulièrement, c'est que des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement lourdes vont accepter cette décision et ne vont pas interjeter appel et vont limiter leur appel aux saisies et aux confiscations qui ont été ordonnées. Donc je pense que c'est une peine qui a beaucoup de sens et qui est très très douloureuse effectivement pour les délinquants.
L'an dernier, la vente de ces objets a rapporté 8 millions d'euros à l'État, auxquels il faut ajouter les 16 millions engrangés grâce à la vente des biens immobiliers saisis par la justice.
12h et presque 12 minutes sur RCFM, on change complètement de sujet avec une grande journée du bien-être animal demain matin à Porto Vecchio, organisée par l'ONG Global Earth Keeper. Elle réunira une dizaine d'associations, dont le refuge de la Caldaniche. Quel est justement l'état actuel des refuges en Corse? Comment gère-t-il l'accueil des animaux? On écoute Evelyne Esteban, elle est représentante du refuge de la Caldaniche, adjointe par Leia Marie Amousso.
Le refuge donc, qui existe depuis 67 voit de plus en plus de chiens arriver, et surtout avec des pathologies importantes, ce qui entraîne des frais médicaux, vétérinaires. On a de nombreux pensionnaires, dont beaucoup en famille d'accueil aussi. Ce sont surtout des chiens qui sont avec des pathologies lourdes. On vient d'organiser justement le Caldaniche Day, comme tous les ans depuis 7 ans. Le Caldaniche Day nous aide à régler nos factures vétérinaires. Ensuite, nous avons de maigres subventions, mais surtout, on a des gens sympas qui nous tendent la main tout au long de l'année. Et on demande aux gens de participer au niveau des adoptions. Il y a quand même une fluidité dans les adoptions, ce qui fait qu'on n'est pas, on n'a pas encore atteint ce jour la surpopulation.
Nous avons 3 refuges aujourd'hui en Corse, 1 en Corse du Sud, 2 en Haute-Corse. C'est suffisant selon vous?
Insuffisant, bien sûr. Dans le sud de la Corse, il n'y a pas du tout de refuge. Là, nous allons accueillir tout à l'heure un chien venant de Porto Vecchio, par exemple. Donc c'est nettement insuffisant. Il faudrait au minimum, un autre refuge dans le sud de la Corse.
Et nous irons plus loin sur ce sujet, de la cause animale, du bien-être animal, en compagnie de l'invité de la rédaction, la présidente donc de Global Earth Keeper, dans quelques instants. De nombreux pays méditerranéens ont connu cet été des incendies catastrophiques, des feux qui ont aussi fait des victimes, par exemple dans le Var ou en Kabylie. Pour les spécialistes, il s'agit d'une nouvelle donne qui doit être prise en compte dans l'aménagement du territoire. Jérôme Souzigne est avec Jean-Louis Rossi, maître de conférence à l'université de Corte et expert à l'ONU. Il est tout de suite donc dans Marie Ladine.
Tous les pays méditerranéens ont connu cet été des feux catastrophes, y compris la Californie, qui paradoxalement est sous un climat méditerranéen. Jean-Louis Rossi est maître de conférence à Corte, expert auprès de l'ONU.
On est face à de nouveaux feux. On les connaissait auparavant, mais avec une moindre fréquence, que l'on peut qualifier de méga-feux, feux extrêmes, c'est-à-dire des feux de forte intensité. On dit souvent que, en fait, ces feux, ils s'arrêtent lorsqu'ils trouvent la mer ou lorsque le climat change et qu'il y a une forte pluie. C'est des feux de forte intensité qui se propage dans un contexte d'une teneur en humidité de l'air très faible et avec un stress de la végétation très élevé. Ça va demander certainement un changement de politique, une autre façon d'appréhender le risque feu.
Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir pour lutter contre ces méga-feux.
Il y a 3 grands facteurs. qui font augmenter le risque feu. C'est un fait, il y a un changement climatique, il va s'aggraver, et ce changement climatique est propice à ce type de feu. Mais il y a deux autres facteurs qui sont la quantité de combustible directement liée à l'intensité d'un feu, ça tout le monde le conçoit, plus vous avez de végétation sèche, et bien entendu, plus le feu va être puissant. Et puis il y a aussi un autre facteur, c'est le comportement humain. Le comportement humain augmente le risque feu. Ces dernières années, on a vu que les populations avaient tendance à quitter, on va dire, les zones rurales pour aller vers les zones urbaines.
Ce facteur humain, c'est l'aménagement du territoire. Où doit-on installer ou ne pas installer les populations? C'est un point qui va au-delà du changement climatique, au-delà des moyens de lutte et de prévention. Cela relève totalement de choix politiques sur un pays, sur un territoire donné.
Un Marie Ladine au spécial incendie à partager sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur Bleu RCFM. Depuis hier et jusqu'à ce soir se déroule à Corte le forum des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle de Corse. Organismes et institutions comme le Parc Galais, la Maison des Sciences de Bastia, l'Université ou encore l'INRA planchent sur la diffusion de cette culture scientifique vers les différents publics. Audrey Valette est médiatrice scientifique au CPIE à Rinascida. Elle est organisatrice de ce forum et elle est au micro de Christophe Doudigelli.
C'est à travers les outils, donc soit des outils de médiation innovante, et puis c'est d'aller chercher les publics là où ils sont. Donc c'est en proposant des outils itinérants, des manifestations là où le public se trouve, donc soit en zone urbaine, soit en zone rurale, pour aller à leur rencontre et justement essayer de favoriser l'échange avec ce public-là pour cibler nos outils pour diffuser cette culture scientifique. C'est d'offrir la meilleure visibilité de ce qui se fait, d'offrir cette possibilité de sa vocation à apprendre et diffuser la connaissance. La culture scientifique, ça touche les sciences humaines, ça touche les sciences techniques, ça touche les domaines du patrimoine, ça touche vraiment tous les domaines. En fait, la culture scientifique, c'est vraiment quelque chose de très large. C'est d'aller dans une thématique et dans les savoirs et connaissances par rapport à cette thématique.
Au chapitre économique, on parle d'industrie agroalimentaire. Après plus de 20 ans dans la restauration aux États-Unis, Olympe Savelli est rentrée en Corse, à Ajaccio, pour y créer une gamme de pâtes fraîches bio, des produits qui seront prochainement exclusivement fabriqués avec du blé cultivé en Corse. On appelle ça les circuits courts. C'est dans la Nouvelle Écho de RCFM, elle est signée aujourd'hui Pierre-Louis Sardi.
Bonjour Olympe Savelli, qu'est-ce qui vous a incité à investir dans les circuits courts plutôt que dans un circuit plus traditionnel avec ce produit ?
C'est vrai qu'on est les premiers en Corse à faire déjà des pâtes artisanales bio, mais ensuite on a fait une gamme à base de farine d'alate, la farine semi-complète. Voilà, je travaille avec les Moulinats d'Igorce. D'ailleurs, la très bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cet été, nous aurons également du blé dur qui sera planté en Corse. Donc, toutes les gammes de pâtes seront à partir de farine corse. Jusqu'à présent, je prenais le blé dur bio en Italie, parce qu'en France, on a aussi beaucoup de difficultés à en trouver. Donc, c'est vrai que du coup, on avait cette gamme corse qui correspond à 3 références seulement, sur les 8 références, parce que les autres sont faites à base de blé dur et ça sera à partir de janvier, ça sera 100% des références qui seront issues de blé corse.
Finalement, vous participez quelque part à l'établissement d'une filière dans l'agriculture.
Ah ben c'est l'idée. Moi, je suis très proche, j'ai été chef de cuisine pendant presque 25 ans et j'ai toujours fonctionné avec les agriculteurs, les artisans. J'ai toujours fonctionné avec le maximum de produits locaux. Le local, le circuit court, pour moi, c'était vraiment le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui ai un peu insisté auprès de Laurent du Moulin à Latte, justement. C'est moi qui ai insisté pour lui dire, écoute, il me faudrait vraiment du blé dur, ça serait génial, parce qu'à ce moment-là, on serait vraiment 100% circuit court. Et c'était l'idée, quoi. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir quand même un minimum d'autonomie alimentaire, et si on peut en avoir de plus en plus et de plus en plus, ça serait quand même très bien. Et je suis très contente, parce que les gens ont vraiment la différence entre une pâte fraîche industrielle et une pâte fraîche artisanale.
Merci Olympe Savelli d'avoir été avec nous ce matin sur RCFM.
Une nouvelle écho à retrouver en ligne sur notre site Bleu RCFM et bien sûr sur les réseaux sociaux de la radio. 12h et presque 20 minutes, on parle de tourisme à présent. Emmanuel Macron a reçu hier à Paris des dizaines de représentants des professionnels du secteur, des représentants internationaux, pour leur montrer, leur prouver que la France demeure une destination de choix pour les touristes du monde entier. Une façon aussi pour le chef de l'État de rappeler que le tourisme sera soutenu dans son développement, comme l'a expliqué le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoine ce matin dans les 4 V sur France 2.
Pour la France, le tourisme, c'est majeur. Vous savez, c'est 8 à 10% de notre PIB, plus de 2 millions d'emplois. Et donc, on va mettre le paquet à la fois en promotion internationale, parce que, ben voilà, il faut donner à voir que, eh bien, la France, elle est ouverte, elle est accueillante. Encore une fois, on déroule le tapis rouge. Donc, des crédits pour la promotion, on fait pour la montagne française. Également, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une offre qui soit attractive. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a pas de mystère. Il faut investir. Avant la crise, la France investissait 15-16 milliards d'euros par an dans le secteur du tourisme. Il faut qu'on passe à 20 milliards, c'est l'objectif qu'on se fixe, pour avoir un rattrapage. Et regardez, d'ailleurs, hier, ils étaient accueillis à l'hôtel de la Marine, ces dirigeants du tourisme international. Ils en ont pris plein les mirettes, parce que ce bâtiment a été magnifiquement rénové, restitué. Eh bien voilà, c'est comme ça, en créant ou recréant une offre de qualité, eh bien que les gens auront envie de revenir et revenir en France.
Un retour à présent sur le bien-être animal. Je vous le disais un petit peu plus tôt dans ce journal, l'ONG Global Earthkeeper organise une journée Avenir Animal à Porto Vecchio demain. L'occasion de questionner donc la place de l'animal dans la société, d'aller aussi à la rencontre des acteurs de la cause animale en Corse. Une dizaine d'associations sera présente à Porto Vecchio demain. L'invité de la rédaction, c'est Laurence Constantin, la présidente de Global Earthkeeper. Elle est au micro de Leïa Marie Amousso.
Laurence Constantin, bonjour.
Bonjour.
Demain aura lieu une journée Avenir Animal à Porto Vecchio organisée par l'ONG Global Earthkeeper. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce thème? Pourquoi l'avez-vous choisi?
Alors, c'est notre troisième édition. C'est vrai que notre association défend autant la cause animale que la cause environnementale. Cependant, nous faisons une journée focus sur l'animal, parce que lorsque nous mélangeons environnement et animal, on a tendance à oublier l'animal. Lorsqu'on mélange les deux thèmes, on a plutôt tendance à parler de l'espèce. Et là, on veut vraiment parler de l'individu.
Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'avenir animal?
L'avenir animal, en fait, c'est la question de la place de l'animal dans nos sociétés. Toute la journée va parler, en abordant différents thèmes plus précis, de la question de quelle place on lui laisse, quel est notre rôle, quels sont nos devoirs en faire ces animaux.
Selon vous, où en est la cause animale aujourd'hui en Corse? Est-ce que la population est sensibilisée à ce sujet?
Eh bien, je dirais qu'une bonne partie de la population est sensibilisée, pas suffisamment, loin s'en faut. On l'a vu notamment pour les votes à la députation, c'est aperçu que le parti animaliste était en Corse le lieu qui avait fait le plus grand score. C'est assez étonnant, mais c'était quand même important de souligner. Oui, les gens sont sensibles. Après, on se heurte toujours à la problématique lorsque on rencontre un problème à côté de chez soi ou qui nous heurte, nous touche particulièrement. C'est comme l'écologie, c'est-à-dire qu'on en veut, mais loin des autres. La protection animale, à certains moments, c'est un petit peu ça. On veut bien de la protection animale, mais loin de nous.
Est-ce qu'ici, on n'est pas sensibilisé peut-être d'une mauvaise manière? C'est-à-dire qu'on parle de la cause animale, on parle du bien-être animal, mais surtout quand il y a des problèmes. Vous êtes notamment intervenu ce mercredi matin au forum de Michael Andréagne au sujet des vaches de Marisol, et on en a beaucoup parlé. Votre prise de parole a suscité de nombreuses réactions à l'antenne. Que faut-il faire de ces vaches? N'y a-t-il pas un danger?
Ce que ça demande, de façon à prendre un arrêté d'abattage, ça demande l'idée du danger imminent. Donc juridiquement, le danger imminent, c'est pas ce qu'on veut, l'on veut nous faire croire. Je parlais vraiment juridiquement et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'accident. J'essaye de recadrer, parce que ces animaux, ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'ils sont là, que les maires ont fait ce qu'il fallait pour prévenir des dangers en mettant des panneaux. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ces vaches sont les victimes de nos incompétences au même titre que certaines personnes qui ont des accidents avec. Nous, ce qu'on prône, c'est, comment dire, une régulation, ou en tout cas régler le problème. Mais en tout cas, on ne voudrait pas que le fusil soit systématiquement la résolution du problème. Voilà, c'est ça que l'on veut dire. On veut trouver d'autres solutions. Il y a des pistes. Il y a des pistes sur lesquelles je ne peux pas m'engager tout de suite par voie, comment dire, de presse, parce que ça n'engage pas que moi, qu'on attend que certaines études soient mieux sorti, plus élaboré, mais il y a des pistes et on voudrait que le problème soit résolu à la base déjà, et non pas que les vaches soient les victimes de ces inconséquences, parce que ça ne résoudra pas le problème. Il reviendra. On aura beau abattre toutes les vaches, ça reviendra.
Au niveau national, maintenant, le bien-être animal est une préoccupation politique. Il y a notamment une proposition de loi qui a été établie par les députés et les sénateurs dernièrement qui amènerait l'interdiction à terme de la vente d'animaux en animalerie, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces avancées ? Vous en êtes satisfaite ?
Bien, écoutez, il y a quand même des avancées majeures sur lesquelles on a eu très peur, par exemple, sur les delphinariums qui enferment quand même des cétacés qui sont des mammifères qui ont besoin de milliers de kilomètres pour assouvir leurs besoins biologiques. Ça a failli ne pas voir le jour. Puis finalement, ils ont acté effectivement la fin des delphinariums. Donc évidemment, avec un timing, hein, de façon à ce que les delphinariums puissent se retourner, faire d'autres choses, orienter leur sensibilité sur d'autres terrains. On est aussi content du fait qu'il n'y ait plus d'animaux sauvages dans les cirques, comme ça se passe dans plus de 25 pays déjà dans le monde entier. Et qu'il n'y ait plus, oui, certains animaux sauvages qui correspondaient à une liste. Ils avaient envie de mettre une liste d'animaux sauvages sur lesquels qu'on aurait pu enfermer toute une vie dans des zoos, dans des cirques, pardon. Et aussi, on est content aussi, effectivement, de l'interdiction d'élevage pour les visons, pour la fourrure. Effectivement, aussi la vente en animalerie. Après, on aimerait qu'il y ait d'autres avancées, comme la corrida, comme les tests sur les animaux qui ne sont pas probants, si on en croit les chercheurs scientifiques. Enfin, il y a encore beaucoup d'avancées à faire, mais celles-là, celles qui ont été prises, sont quand même majeures à notre sens.
Des thèmes dont vous discuterez demain à Porto Vecchio. Laurence Constantin, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
RCFM, le sport.
Et le sport, c'est le retour de Stéphane Rossi, l'ancien entraîneur du CAB et du Sporting Club de Bastia, qui a été nommé hier entraîneur du FC Bastia Borg en remplacement d'Albert Cartier, remercié par les dirigeants du FCBB en raison des mauvais résultats de ce début de saison. Un retour à la maison donc pour Stéphane Rossi, qu'il commente au micro de Jean Prounette.
Stéphane Rossi, bonjour.
Bonjour.
Alors le premier point, c'est qu'on doit vous dire qu'on est heureux de vous retrouver, même si peut-être vous ne vous attendiez pas, après votre épisode à Cholet, à retrouver et à revenir en situation d'entraîneur dans un club de Corse, dans un club bastiais qui plus est. C'était pas dans vos projets forcément.
Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Après, qui concerne le retour, oui, je m'attendais pas forcément à revenir dans un club corse, mais les circonstances font qu'un club corse en difficulté avait besoin de mes services. Moi, j'étais libre sur le marché et vous connaissez l'attachement que j'ai pour le football corse. Donc, quand il y a un club qui est en difficulté, j'ai déjà fait auparavant, et ben, je m'efforce de donner mes compétences.
Comment se sont passés les contacts avec un club que vous connaissez bien? Ça a été plus facile pour vous de vous réengager et de donner votre réponse aussi vite?
Oui, bien sûr, ça a été plus facile parce que d'une part, je connais l'effectif, je connais le club. Ensuite, le challenge est compliqué, difficile, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être là et fédérer tout le monde pour sortir le Sébastien Borgo de cette mauvaise spirale.
Alors là, vous avez peut-être pas eu le temps de préparer comme il conviendrait ce match contre Cholet, que vous connaissez bien aussi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en 24 heures, 48 heures?
On va faire fi de tout ça, hein, on va pas commencer à trouver des excuses. J'ai eu quand même un peu de temps pour travailler. Il faut qu'on enclenche une bonne dynamique. Alors ça va être un match, comme tous les matchs nationaux, difficile, mais voilà, ça peut être le déclic pour enchaîner sur une série et sortir de cette mauvaise dynamique. C'est très important pour jauger un peu l'état d'esprit des troupes et surtout voir si mentalement ils sont pas trop atteints.
Stéphane Rossi, merci. Merci beaucoup et évidemment, on vous souhaite beaucoup de réussite dans votre nouvelle mission.
Merci à vous. Merci bien.
Les premiers matchs donc pour Stéphane Rossi et sa nouvelle équipe du FCBB ce soir, 19h face à Cholet, au complexe Paul Nadal de Borgo. À 12h28 sur RCFM, les principaux titres de l'actualité. Le skipper allemand placé en garde à vue mercredi après l'arrivée d'une famille syrienne a été libéré sans être poursuivi hier soir. Les 10 réfugiés, eux, sont toujours dans une résidence de vacances à Porto Vecchio en zone d'attente. Le temps notamment pour les autorités de vérifier leur identité, leur situation. La procédure administrative en cours va notamment dépendre du choix de la famille d'origine syrienne de demander ou non le droit d'asile. Tommy Reco restera en prison. Sa 21e demande de libération conditionnelle a une nouvelle fois été refusée hier par la justice. Depuis plusieurs années, l'homme, auteur de 2 triples meurtres, désormais âgé de 87 ans, évoque des soucis médicaux incompatibles avec sa détention. Une demande donc une nouvelle fois refusée par la justice qui estime que sa détention est compatible avec son état de santé, mais évoque aussi un risque de récidive. Suite et fin aujourd'hui du déplacement en Corse de la ministre de l'Insertion, Brigitte Klinker. C'est était attendue était ce matin plutôt du côté de Corte et de Francardo. Elle était hier à Ajaccio et à Pilacanale pour présenter les derniers dispositifs mis en place par le gouvernement pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de précarité. Et puis enfin, un mouvement de grève des infirmiers anesthésistes, mouvement national, il a débuté hier. Il est suivi à 100%, par exemple, à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Les infirmiers anesthésistes protestent contre le mépris dans leur profession, fait aujourd'hui l'objet. Des infirmiers qui, même en grève, peuvent être assignés par la direction pour travailler. Les infirmiers qui avaient, en amont avec la communauté médicale, justement, travailler pour impacter le moins possible les opérations urgentes et notamment en cancérologie.